Je propose de prier, hein, on vient de le chanter, que sa parole nous parle, que son esprit se révèle à nous et que nous puissions comprendre le Seigneur. Je vais simplement prier. Seigneur, c'est un privilège ce matin d'être rassemblés et de pouvoir proclamer ensemble que tu es Dieu, que tu règnes, que tu nous aimes, que tu t'es donné en Jésus-Christ. Merci pour ce temps que maintenant aussi nous voulons mettre à part, parce que nous, c'est vrai, comme nous venons de le chanter, ta parole est vivante, elle nous nourrit, elle te révèle, elle nous encourage, elle nous permet de te regarder et de te contempler. Seigneur, je prie pour que ce temps ce matin soit propice à une rencontre encore avec toi et avec un éclairage de ta part. De la même façon, Seigneur, je prie pour les enfants qui sont réunis au Satel. Je prie pour Michel qui va partager aussi ta parole et que chacun de ces jeunes soit touché aussi par ton esprit et par cette parole vivante et efficace. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. C'est vrai, il est bon de prier pour l'aide de Dieu pendant qu'on écoute sa parole, hein. On poursuit ce matin justement dans le livre des Rois, un livre de l'Ancien Testament qui parle de l'histoire de rois, d'un peuple d'Israël, et c'est loin de notre contexte. Voilà quelques semaines où on est dans la première partie, dans la première saison de ce livre des Rois, autour du roi Salomon, successeur du roi David, du grand roi David. David, tous ses... l'un des plus grands auteurs de tous ces psaumes qu'on a et qu'on chante aussi de temps en temps. Au chapitre 1, simplement pour vous remettre dans le contexte, on a vu que c'est là où Dieu a placé Salomon comme un digne successeur de David. C'était Dieu qui était à la manœuvre. La semaine dernière, avec le chapitre 2, on a vu comment le trône devait être affermi, comment la royauté devait être affermie. Et on avait vu que c'est... il y avait deux éléments qui étaient donnés, c'était notamment qu'un roi devait obéir à Dieu, à la parole de Dieu, et un roi aussi qui rend justice, pleinement justice. Et voilà deux éléments qui affermissent un trône. Et ce matin, on va poursuivre avec la réflexion, comment devrait régner un roi qui est sur le trône pour impacter tout le peuple? Quel type, j'ai fait juste cette question, hein, quel type de roi? Et on va regarder... dans les chapitres 3 à 5, quel type de roi on a besoin? Pour vivre heureux, qu'avons-nous besoin? Un pays en paix, hein, ce serait l'idéal, sans guerre. Une certaine prospérité, hein, un confort, où on ne manque de rien, où on a accessible à tout ce qu'on a besoin, ce que le corps humain a besoin. Peut-être aussi un endroit où les rôles sont clairement définis, sans confusion. On sait, un tel est responsable de ça, un tel de telle décision, de telle chose. Que les décisions qui soient exercées entre nous soient exercées avec justice, avec équité pour chacun, dans un objectif aussi d'avenir. Pour vivre heureux, qu'avons-nous besoin? Je propose que ce qu'on va découvrir dans ces chapitres, on puisse y trouver une belle piste de réponse. Je propose d'aller au chapitre 3. On va lire les premiers versets, et c'est Eva qui va nous les lire. Donc on est au 1 Rois, chapitre 3, et on va lire les premiers 15 premiers versets.
Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'installa dans la ville de David, en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit: « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit: « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs.
Merci Eva. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon titre est « Un roi sage, un peuple en paix ». Un roi sage, un peuple en paix, parce qu'il va être question de la sagesse du roi Salomon. Mais tout d'abord, regardons ces premiers versets, et on se retrouve, en fait, moi je l'ai donné comme titre, dans un monde compliqué, versets 1 à 4. Imaginez que vous arrivez à votre examen de conduite, de votre permis de conduire, que vous portez les mauvaises lunettes. Dans votre nervosité, vous mettez les essuie-glaces en marche au lieu du contact. Vous confondez le genou de l'examinateur avec le levier de vitesse. Ça s'annonce pas bien du tout. Et j'ai un peu ce sentiment avec ces quatre premiers versets du chapitre 3. La semaine dernière, je vous rappelle, on s'était arrêté là, hein, dans le dernier verset, avec ce constat-là. Au verset 46, « La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon ». Et là, on a quelques lignes des les premiers temps sur son règne, et qui, pour moi, m'interroge déjà, parce qu'on traite, on est autour de la sagesse. Il est question d'un mariage, il est question de sacrifice sur les hauts lieux, on voit un roi Salomon qui aime Dieu. Il faut avoir en tête que Salomon est un jeune homme, il le dit lui-même d'ailleurs, on le situe aux alentours de 20 ans, et le voya sur le trône d'un royaume. D'un peuple nombreux, nous dit le texte. On a déjà vu dans les chapitres précédents les intrigues de la cour, les opposants, la mort de son père, le grand roi David. Et il est seul maintenant sur ce trône. Et on l'a encouragé à gouverner son peuple avec obéissance à Dieu et avec une certaine justice. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Gouverner un pays, vous allez concevoir, c'est composer inévitablement aussi avec les nations qui sont autour de vous, comme l'Égypte. Et là, on apprend, première ligne de notre chapitre, Salomon épouse donc la fille du Pharaon. On est là dans un mariage diplomatique. La paix est assurée entre deux nations. Le Pharaon n'osera jamais venir à Jérusalem, parce que sa fille, elle est là-bas, à Jérusalem. Donc voilà, il y a une paix qui est instaurée entre les deux nations. Mais est-ce la voie que Dieu aurait aimée pour stabiliser son trône, pour stabiliser son pays? On n'a pas de commentaire dans notre texte. J'ai vérifié dans la parole de Dieu, il n'est pas expressément dit qu'il est interdit au roi d'Israël d'épouser une Égyptienne. Par contre, il était interdit d'épouser une Cananéenne, donc c'était ceux qui étaient les anciens habitants de ce pays. Mais était-ce sage d'épouser une femme qui adore probablement d'autres idoles? Je laisse la question ouverte. D'autres dieux? Pas de remarque ou de jugement du narrateur sur ce choix de Salomon. C'est vrai, on peut faire des choix, pardon, sagesse humaine. On pourrait se dire, ouais, il a été stratégique là. Il s'est allié par alliance avec un pays voisin. Mais qui nous éloigne quelque part d'une confiance placée uniquement en Dieu. À la fin du cycle de Salomon, hein, les onze premiers chapitres du 1 Roi parlent de Salomon. Et à la fin du règne de Salomon, on va dire que ses mariages avec des femmes étrangères l'ont conduit à s'éloigner d'un attachement à Dieu. Elles seront responsables, et cette femme égyptienne sera probablement responsable de l'entraîner à s'éloigner de Dieu. Deuxième point, qui m'interroge aussi dans ce texte, et qui montre que le monde n'est pas si facile, on nous dit que le temple n'est pas encore construit, et que le peuple et le roi, on évoque l'adoration sur les hauts lieux. Trois fois, hein, dans quatre versets, il nous est dit que le peuple allait offrir des sacrifices sur les hauts lieux. Verset 2, le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux. Toutefois, sur les hauts lieux, ils offraient des sacrifices et des parfums, et le roi alla, verset 4, offrir des sacrifices, car c'était là le principal des hauts lieux. Alors les hauts lieux, il faut s'imaginer comme les collines, les espaces en hauteur qui entouraient les villes et les villages, sur lesquels on rendait des cultes, et notamment avant la venue de ce peuple d'Israël dans cette région de Canaan, il y avait des lieux dédiés, des places dédiées, un peu saintes pour des divinités, il y avait des sculptures disposées, des lieux païens, véritablement. Et là, a priori, on adorait aussi l'Éternel. Mais là, on apprend que la loi de Moïse, il y a d'autres textes qui nous disent qu'il était interdit d'y offrir des sacrifices pour Dieu là-bas. Le seul endroit autorisé était le tabernacle ou le temple qui allait venir. Et ici, Israël et le roi semblaient y offrir des sacrifices. Il y a un peu déjà du compromis. Salomon aime Dieu, on l'entend, mais le narrateur y met une nuance, verset 3. Toutefois, on entend que c'est pas si clair que ça. Une concession dangereuse, je dirais un peu un mélange, un peu de compromis. Et on pourrait se dire, on voit Salomon, il est généreux, hein, 1000 holocaustes. Imaginez. 1000 holocaustes. Il est généreux, il dit, oui, non, j'adore Dieu. Mais est-ce qu'il pratique un culte qui est inapproprié pour Dieu? C'est vrai, l'amour pour Dieu n'empêche pas de faire des compromis dans notre vie, d'être pas si clair. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dira que Dieu préfère l'obéissance à des milliers de sacrifices. Nos sacrifices ne nous rapprochent pas de Dieu, on le sait, ou ne nous rend pas plus favorables de Dieu. On a un peu du mal à discerner ce qui est vrai, de ce qui est bien, de ce qui est mal, dans ces premiers versets. Mais Salomon, il est extraordinaire dès les débuts de ce règne. Les critiques envers son règne seront bien plus tard le récit du roi. Et on le verra dans la suite de ce passage ce matin que Salomon est présenté comme un modèle et la scène suivante nous le démontre. Mais le contexte est néanmoins un monde compliqué. C'est pas simple de diriger nos vies dans ce monde. Les choses sont remplies de nuances, sans cesse, et on doit composer. C'est pas tout noir et tout blanc, c'est parfois gris. Et on doit discerner. Quel est le bon choix pour honorer Dieu dans tout cela? Quelle décision est la plus appropriée? C'est cela la sagesse, c'est de se dire quel est le choix que Dieu aimerait que je fasse dans telle ou telle situation. Et on peut être écrasé parfois par le poids de ces décisions, dans la famille, dans nos responsabilités, dans notre orientation qu'on voudrait donner à notre famille, des conseils qu'on peut être amené à donner. Est-ce que ça va être juste? Est-ce que ça va être équilibré? Est-ce que cela va nous écraser? Dans notre investissement, dans notre service, on se questionne toujours, est-ce que c'est bien, pas bien, jusqu'à où je peux? Dans nos finances, dans notre énergie? Dans le choix d'une église, c'est pas toujours évident. Dans le choix d'une école pour nos enfants? Dans un travail, hein, dans une boîte? Dans le choix d'un conjoint? Tant et tant de choses. Mardi soir, on a partagé en tant qu'église, on réfléchit à nos locaux. On en a parlé brièvement. On est dans Dieu voulant. On sait qu'il y a différentes possibilités, tout aussi bibliques, et on le voit, on a besoin de quoi? De sagesse, de discernement. Les Écritures, la parole de Dieu nous guide, mais ne règle pas tout. La Bible nous dit bien évidemment que l'on doit épouser une chrétienne, mais elle ne dit pas laquelle. La Bible m'encourage à travailler honnêtement de mes mains, mais elle ne dit pas si je dois aller ici ou là. Je l'évoquais, on est dans une réflexion sur nos bâtiments. La Bible ne dit pas quelle option choisir, le prix, le temps, l'expérience, l'urgence, la vision, l'impression que ça nous laisse. Tout cela n'est pas simple. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la direction de Dieu dans un monde qui est parfois bien compliqué. Et on en arrive au deuxième point. Une sagesse qui est demandée. Après l'échec de votre permis de conduire, vous allez faire du shopping. Vous tombez sur une vieille lampe en laiton et en la frottant, il y a un génie qui sort, qui vous offre 3 vœux. Conte Aladdin. On le sait, les génies n'existent pas, mais notre Dieu existe. Et ici, étonnamment, il apparaît dans un rêve à Salomon. Et Dieu lui donne, ça ne nous a pas échappé, la possibilité de demander ce qu'il veut. Tout commence par sa question. Verset 5, Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Waouh ! Que désires-tu ? Imaginez Dieu vous poser cette question. Tu as droit à un vœu. Que choisis-tu ? Il faudrait prendre le temps de réfléchir, je crois. Un moment extraordinaire, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un ? Et je vous propose que ma réponse que je vais donner va révéler mon cœur, ce qui me gouverne, ce qui domine dans mon cœur. Il est tout à fait possible que vous demandiez quelque chose de légitime à Dieu, un prince charmant. J'aimerais un enfant. Peut-être la bonne santé si vous êtes malade. Une bonne place ou dans l'entreprise. Ou une bonne école pour mes études. Une belle somme d'argent pour régler tous les imprévus qui viennent me tomber dessus. Qu'aurions-nous demandé ? On voit que quand on commence à réfléchir un peu à cela, on va peut-être facilement répondre à des choses qui vont satisfaire notre propre royaume, notre propre cœur, notre propre vie, et non pas celui de Dieu. Et on va vite reconnaître que d'ailleurs notre première demande, on aurait bien aimé avoir un deuxième vœu. Il nous faut encore un autre vœu, parce qu'on s'est planté dans le premier. Parce que preuve qu'une fois j'ai le premier, il me manque encore quelque chose. On rêve trop petit. On rêve mal dans le but de satisfaire nos propres vies. Et dans ce texte, Salomon, lui, et c'est ça qui est extraordinaire, ne se trompe pas dans sa demande. Ça ne nous a pas échappé, hein. Je relis simplement les versets 6 et 7. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai pas d'expérience, etc. » Je pense qu'à sa place, on aurait probablement demandé du confort, de la sécurité, du succès. Et Salomon, lui, demande de la sagesse. Salomon demande la sagesse. Et Dieu, on le voit dans sa réponse, est très satisfait de sa demande. Dieu dit, je le ferai, je te l'accorde, je te le donnerai, cette sagesse dont tu as besoin. Et on pourrait se demander que signifie la sagesse de Dieu. Comment on la définirait ? Comment la Bible en parle ? Et je retrouve déjà quelques caractéristiques de cette sagesse dont la Bible présente dans bien d'autres textes, plusieurs caractéristiques dans l'attitude de Salomon. Premièrement, je relève qu'il y a un cœur humble, l'humilité. Salomon reconnaît qu'il n'est pas un homme qui s'est fait tout seul. Il reconnaît qu'il est là parce que Dieu l'a voulu, dans sa grâce et sa générosité. Il reconnaît que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, lui a été donné. Là, on est dans les versets 6 et 7 qu'on vient de lire. Il fait référence, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Il se sent petit face à la tâche. Il dit « Je ne suis personne, je suis comme un petit enfant. Et pourtant, j'ai cette responsabilité énorme de devoir gouverner ce peuple nombreux. Aide-moi à être sage. J'ai besoin de ton aide pour bien faire les choses. » Voilà sa demande de Salomon. La sagesse, c'est d'être humble et de reconnaître la grâce et le besoin d'être aiguillé par Dieu. Un deuxième élément qui nous apparaît aussi, c'est que la sagesse concerne le jugement moral. Comment conduire ce peuple ? On est dans les versets 8 et 9. « Donne à ton serviteur un esprit intelligent pour gouverner ton peuple, avec un esprit capable de discerner quoi entre le bien et le mal ? De savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Être sage, c'est être capable de discerner la direction de Dieu, de discerner ce qui est juste, ce qui lui plaît, de pratiquer la justice. » Et la suite de notre texte, tout à l'heure, va nous le démontrer. L'homme sage cherche à prendre de bonnes décisions. Troisième élément, l'homme sage cherche le bien des autres. C'est l'altruisme. Salomon n'est pas dans la recherche, je l'évoquais, dans son développement de sa propre carrière. Il cherche la sagesse, il demande la sagesse pour le bien de ce grand peuple dont il a la responsabilité, qu'il doit gouverner, qu'il doit conduire. L'homme sage cherche les intérêts des autres, pas seulement ses propres intérêts. Et là, on voit le cœur déjà de Salomon qui est prêt à recevoir cette sagesse de Dieu qui a déjà ses caractéristiques. Il est assis sur le trône à cause de la grâce de Dieu et il se sent insuffisant pour conduire ce peuple trop grand, ce peuple de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est justement réaliser ô combien on a besoin de Dieu, combien on a besoin de sa direction. Salomon dira dans le Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. » Et là, dans la crainte de l'Éternel, il ne faut pas confondre dans la peur, mais c'est la crainte, c'est l'admiration, c'est l'adoration, c'est une relation de foi avec notre Créateur, Sauveur et Juge. Verset 3, « Salomon aimait Dieu. » C'est cela. Le commencement dans la sagesse, c'est la crainte, c'est l'amour envers Dieu. Et c'est cette demande qui plaît à Dieu, hein, au verset 10. Demander la sagesse était le bon choix. Dieu fut ravi que Salomon l'ait demandé plutôt qu'une longue chose de liste, de richesse, de succès. Et en réponse, hein, on le connaît ce texte, Dieu lui donne au-delà de simplement la sagesse, et lui dit, ben voilà, tout le reste te sera donné par-dessus tout. Et Salomon sera un homme sage. Salomon va y réfléchir plus tard, toujours dans Proverbes, et il va dire ceci, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. » Donc il réalise que la sagesse vaut bien plus que tout ce qu'on aurait pu désirer humainement. Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui accorde. Et on le sait, celui qui est sage, c'est un principe, vivent plus longtemps, sont plus riches, dans le sens parce qu'ils font des choix plus sages. C'est un principe. Une promesse, un principe. Mais pour le dire autrement, ne cherchez pas à être sage pour être plus riche, pour avoir du succès, pour vivre plus longtemps. La sagesse est en elle-même, la sagesse de Dieu est en elle-même un trésor à garder et à cultiver. Si on était resté là avec notre lecture, on aurait pu se dire, ce rêve entre Dieu et Salomon, est-ce que c'est un rêve ou c'est réel ? Dieu m'a-t-il vraiment accordé la sagesse ? C'est le troisième point ce matin, la sagesse de Salomon sera reconnue. D'une manière très concrète. Et on a un exemple brillant dans ces versets 16 à 28 qu'on va pas lire. Hein. Vous connaissez probablement cet épisode. Une histoire qui nous est laissée très précise. En travaillant ce texte, je me suis dit, elle est quand même étrange. Hein. Mais elle va illustrer cette sagesse que Salomon a reçue. Et qui va faire sa réputation, qui va montrer que la prière de Salomon a été exaucée. On a dans cette histoire deux femmes, prostituée qui se présente devant le roi. En fait, en Israël, le roi est aussi parfois le juge qui est, dans les derniers cas extrêmes, en dernier recours, doit aussi régler tout différent. Je trouve que le fait même que ces femmes soient des prostituées, c'est significatif. Cela nous indique que même des personnes marginales ou méprisées peuvent avoir accès au roi, à un roi sage. Un roi sage est accessible de tous, hein, ça interroge. L'histoire rapportée, elle est très complexe. Hein. On a deux prostituées qui partagent une même maison. Tous les deux avaient un même fils, un enfant chacun. Mais le troisième jour, elle se réveille et l'un des enfants est mort. Et l'accusation est que l'un a échangé l'enfant. Attendez, c'est pas mon bébé, c'est ton bébé, n'est-ce pas ? Elle dit non, non, c'est mon bébé. Il y a une dispute pour savoir qui a l'enfant vivant. C'est un drame d'un échange entre colocataires. Il y a contestation, on nie les faits. Et on demande au roi de donner verdict dans cette situation. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de recherche ADN, deux garçons du même âge, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Le roi lui-même constate, hein, verset 23, l'une dit « c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort » et l'autre dit « absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant ». C'est là que Salomon a besoin de sagesse. Il n'y a pas de loi pour trancher un verdict plutôt qu'un autre. Rien qui gère ce type de situation, de conflit. Et Salomon propose cette solution assez radicale. Versets 24 et 25, il ordonna « apportez-moi une épée ». On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors « coupez en deux l'enfant qui est en vie, donnez-en la moitié à chacune ». Jugement équitable. La sagesse de Salomon se voit dans ce jugement. Une solution équitable, mais inacceptable par la mère. Comment réagit la mère ? Donnez-lui l'enfant. Ne le faites pas mourir ! Je le disais tout à l'heure, nous faisons des choix qui révèlent ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos vies. Choisir le travail qui paye le plus ? Peu importe le temps que ça me laisse en famille. Si vous cherchez une épouse et que le seul critère, c'est la beauté, alors vous passez à côté de la sagesse du cœur. Ne le faites pas mourir. Pour l'autre femme, ce qui la gouverne, on le discerne, c'est d'être une mère. C'est plus important que l'enfant lui-même. Il est insoutenable pour elle de vivre à côté d'une autre mère qui aurait un enfant. Elle préfère qu'on tue l'enfant. C'est une folie. Elle voulait garder cet enfant et justement, elle le perd. La première femme accepte, la première mère accepte de perdre son enfant pour qu'il ait la vie. Et elle va retrouver son enfant. Quelque part, la sagesse de cette femme, c'est la sagesse de Dieu, hein, c'est l'évangile en fait. C'est accepter de perdre pour gagner la vie. C'est une distinction profonde entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, se révèle dans la sagesse de l'humiliation, quelque chose d'inconcevable pour les hommes, le renversement de toute logique. La sagesse du monde cherche le soi, le pouvoir, la préservation du soi, l'honneur. Jésus a choisi l'humiliation, la mort, pour sauver les autres. Elle préfère renoncer à son rôle de mère pour que l'enfant ait la vie. Voilà la sagesse que Dieu a démontrée. Il a offert sa vie pour que nous ayons la vie. Christ a tout perdu pour le salut de chacun d'entre nous. C'est vrai, le monde, et on le voit dans la venue du Messie, du roi conquérant, ils attendaient un roi qui soit fort. Mais la sagesse de Dieu a triomphé avec une faiblesse apparente de la croix. Le résultat de cette histoire et de cet épisode, je propose de le lire, verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Waouh ! On est en présence d'un roi sage. Le peuple reconnaît la sagesse de Dieu en Salomon. C'était la bonne parole au bon moment pour rendre le bon verdict. La sagesse est précieuse. La sagesse de Dieu est précieuse. Je disais tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ce soit deux prostituées qui ont eu accès au roi. Autrement dit, c'est celles qui sont au bas de l'échelle. Quand on réfléchit à Jésus, avec qui Jésus a interagi principalement quand il était parmi nous, avec ceux qui étaient rejetés, les laissés pour compte, les maltraités, ceux qui étaient pointés du doigt. Heureux le peuple qui possède un tel roi. La crainte s'empare de tout Israël dans le sens positif. Hein. On comprend de quelle crainte il s'agit. C'est une admiration, c'est un profond respect. Non seulement Salomon est rempli d'une sagesse dans ses jugements, et on a un exemple ici, mais il est aussi dans l'administration de son royaume. Et là, c'est le chapitre 4, on va pas le lire, mais on voit qu'il a de la sagesse parce qu'il s'entoure de personnes, de ministres, de conseillers, il délègue un certain nombre de tâches et de responsabilités, il cherche à unir tout le peuple, Israël et Juda, il établit des gouverneurs, des intendants, il met des personnes en charge des 12 tribus, en charge d'ailleurs de la nourriture de la cour, pendant un mois de l'année, etc., on voit qu'il y a une certaine sagesse dans la manière dont il dirige son royaume. Et on lit cette renommée de Salomon, on arrive au chapitre 5, on clôt notre partie de notre section, et j'invite Eva à lire. Donc on est au 1 roi, chapitre 5, versets 9 à 14.
Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, les Rachites, ou Kéman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler.
Merci. On voit que Salomon possède une réputation extraordinaire. Hein. On est toujours dans cette partie d'une sagesse reconnue. Même à l'international, on reconnaît sa grâce. Salomon surpasse les plus grands. On pourrait se dire, c'est qui pour nous les grands, hein, en matière de production littéraire, Molière, Victor Hugo, j'en sais rien. Pour qui en architecture, hein, Léonard de Vinci, Le Corbusier, Gustave Eiffel avec la tour Eiffel, etc., j'en sais rien, mais Salomon dépasse les grands, dépasse l'Égypte et ceux qui ont construit les pyramides, dont on ne sait toujours pas comment elles ont été bâties aujourd'hui. Il récite 3000 proverbes. Il a composé 1005 chansons. J'aime bien 1005 parce que c'est pas juste 1000 pour un chiffre arrondi, mais c'est vraiment 1005. Salomon parlait d'arbres, des cèdres du Liban jusqu'à la plante qui pousse sur un mur. Il connaît tout, y compris en jardinage, en botanique. Il y a une différence des espèces. Il parle des bêtes, des oiseaux, des reptiles, des poissons. Waouh! Et des gens de tous les pays venaient l'écouter. Tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Voilà une sagesse extraordinaire. Dieu exauça sa prière. Il devint très sage. Dieu ne lui devait rien, mais Dieu lui a permis d'avoir cette sagesse. Mais le fait que Dieu lui donne à cet endroit précis, à cette histoire précise, est très significatif. Tous les hommes cherchent la sagesse et savent le reconnaître. On le voit, on reconnaît la sagesse de Salomon. Et le résultat de cette sagesse, et c'est mon quatrième élément, quatrième point, mon dernier point ce matin, c'est qu'on est un peuple en paix. Au verset 1 du chapitre 4, je reviens un peu en arrière, Salomon était roi sur tout Israël. C'est significatif. Je vous invite à lire à partir du verset 20 du chapitre 4 au verset 5, verset 6, et j'invite de nouveau Eva à poursuivre la lecture.
Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleurs de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate et sur tous les rois établis à l'est de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tifsac à Gaza et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers.
Merci. Bon, y a de quoi faire de sacré barbecue. Mais on voit qu'on est avec un peuple en paix. Une abondance. Mais quand on lit cela, il y a beaucoup d'expressions très intéressantes qui devraient nous faire tilt. D'abord, on a le peuple qui mangeait, buvait et se réjouissait. Il y a de la joie. Que demande d'autre le peuple ? Manger, boire et se réjouir. On peut faire la fête. Vous savez, il y a chaque année un rapport sur le bonheur mondial et qui classe les 150 pays pour indiquer là où on vit le plus heureux. Et chaque année, enfin apparemment c'est toujours les pays scandinaves, bon, j'aime beaucoup la Scandinavie, mais voilà, c'est la Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, voilà. Bon, on ne sait pas pourquoi, comment ils restent en tête du tableau. Et voilà, nous les Français, on est plutôt en dessous de la 20e place, même les Belges, j'ai même vu que les Mexicains nous dépassent. Bon, ça ne nous étonne pas, hein. On est un peu râleur, n'est-ce pas? Mais pour être honnête, même en Finlande, en Norvège, ils n'ont pas un taux de bonheur à 100%. Mais le texte nous dit que, voilà, on sent dans ce texte qu'il y a de la paix, qu'il y a de la stabilité. Juda et Israël, on nous dit qu'ils étaient aussi nombreux, donc c'est pas juste pour un petit, hein, mais étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Et là, ça devrait nous faire tilt. Avec cette allusion. Quand on dit cela. Parce que là, on a la promesse que Dieu a faite à Abraham. Celui qui est à l'origine de ce peuple d'Israël. On lit ça dans Genèse 22, 17. « Je te bénirai », donc c'est Dieu qui parle à Abraham, « et multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. » Donc on est là, dans la réalisation des promesses faites à Abraham. La promesse d'Abraham se réalise sous le règne d'un roi Salomon qui a été sage. Un peuple nombreux. Et si vous avez fait attention, une des lectures que Eva nous avait faites, on avait appris que ce peuple est aussi nombreux, mais que la sagesse de Salomon était aussi nombreuse, enfin aussi grande que le sable étendu sur le bord de la mer. Les mêmes expressions. Vous voyez ce lien ? Un peuple nombreux, un roi qui est sage. Il y a un roi qui est sage, le peuple est en paix. Le lien entre le roi et son peuple. On l'a vu dans cette dernière lecture, hein, le pouvoir s'étend de Salomon sur toute la région, sur tous les rois. Plusieurs fois, il y a cette expression, ce pouvoir s'étend. D'Israël, de là jusqu'ici, ils habitèrent quoi? En sécurité? Chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Et là, c'est une expression, pour nous qui sommes peut-être habitués à la parole de Dieu, qui devrait aussi nous faire tilt, parce qu'il y a l'idée, bien sûr, de l'unité du royaume. Il y a un seul peuple, Juda. Et Israël, donc voilà, il y a l'unité à cause de cette sagesse, sous sa vigne et son figuier. Et ça, c'est une expression qu'on retrouve régulièrement dans la bouche des prophètes de Dieu, qui notamment Michée et Zacharie, qui vont décrire une période à venir où il y aura des temps de paix, sous l'autorité d'un grand roi, sous l'autorité d'un Messie, chacun habitera sous sa vigne et c'est son figuier. Il y a quelque part un âge d'or, une terre promise. Et quand les prophètes parlent, c'est qu'ils sont bien après Salomon, ils annoncent qu'en fait, il y aura un temps dans l'avenir où chacun vivra sous son figuier et sous sa vigne. On aspire à un âge d'or. Vous l'avez entendu dans ce passage, il y a la question de l'abondance du peuple. On a cette nourriture à profusion. C'est pas juste le repas du roi, on le conçoit que Sa position de roi bénit tout Jérusalem et tout sa cour qui est autour de lui. C'est la richesse, la prospérité qu'il partage avec chacun. Le peuple est en paix, il jouit de la bénédiction, de la sécurité, de la prospérité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un roi sage qui gouverne. Un roi vers lequel chacun peut aller. Il organise le pays, il partage ses biens, il protège son peuple, il possède la sagesse d'en haut. Ici, dans le texte de un roi, et d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, on est dans un moment rare, unique dans l'histoire du peuple, où des gens du monde entier venaient écouter ce qui se passait ici. Il n'y avait pas d'autre Salomon dans le monde, un fait rare historique, géographique, qui fut une bénédiction immense, au point que l'auteur nous dit que sa sagesse dépassait tous les sages d'Orient, et y compris ces Égyptiens. Lorsque le livre des rois raconte tout cela, on doit avoir en tête, lorsque le roi est bon, sage, fidèle, alors le peuple l'est également. C'est ce qu'on avait déjà évoqué. Le peuple vit dans la prospérité et dans la paix lorsque le roi est bon, sage, fidèle, juste, etc. Alors que lorsque le roi est mauvais, insensé, idolâtre, le pays sera divisé, va s'éloigner de Dieu. Il y aura la guerre, il y aura la détresse, il y aura la famine, il y aura plein d'un certain nombre de choses. Vous voyez ce lien, et c'est ce qui va parcourir tout ce livre des rois. Il faut se souvenir, je l'évoquais déjà, et c'est une des clés aussi, ce texte est écrit pendant l'exil, pendant une période sombre de l'histoire du peuple, où le dernier roi a perdu le trône, où les gens ont été déportés à cause des mauvais rois qui se sont succédés. Et l'objectif de ces auteurs de ce livre des rois nous dit, mais comment en est-on arrivé là, à cette situation? Mais quelque part aussi pour nous redonner de l'espoir à ce peuple en exil. Parce que les prophètes, les auteurs de cette lettre, de ce livre, nous montrent que la beauté d'un royaume, lorsque le roi est sage, lorsqu'il a la sagesse de Dieu, quelque part pour éveiller la nostalgie. Ce roi était tellement sage que le peuple était en paix. Et les lecteurs savent la suite. Les rois se sont détournés, les différents rois, même ce roi-là s'est détourné de cet attachement à Dieu. Il était imparfait. Et tous les rois qui se sont succédés étaient imparfaits. Et donc, quelque part, le peuple soupire après un autre roi, plus grand, plus sage que Salomon, encore plus glorieux, encore un royaume beaucoup plus stable, plus paisible, et justement un royaume qui sera davantage éternel que aussi éphémère. Ne serait-il pas merveilleux d'avoir un roi tellement sage, au point où on serait en bénéfice, chacun, qui apporterait la sécurité, la justice, la prospérité, la bénédiction à chacun? Vous l'avez compris, hein, depuis qu'on a débuté cette série sur le livre des rois nous pointe vers un autre roi. Plus beau, plus sage, plus grand, Jésus-Christ, descendant lui aussi de cette lignée de David, le fils d'un charpentier. Et sa vie même va révéler cette supériorité à Salomon. Lors de sa naissance, des mages d'Orient sont venus le reconnaître comme le roi des Juifs qui vient de naître. À 12 ans, on le sait, Jésus s'est assis avec les hommes de la loi, avec les grands. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses sagesses. Vous voyez ça dans Luc. On apprend que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et quand Jésus a commencé son ministère, la foule était frappée par son enseignement, par son autorité comme personne d'autre. Même les gardiens du temple ont reconnu que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Voilà le roi qu'il nous faut, qui a humblement servi les gens, qui s'est soucié vraiment de ce qui est juste et bon, qui n'a pas pensé qu'à lui, même s'il en avait les droits, il était le roi des rois, en tant que Dieu très haut. Mais tout était pour les autres. Il était serviteur de tous, il était esclave de tous. Sa sagesse, elle était pratique. Il a changé la vie des autres, au plus profond d'eux-mêmes. Sa sagesse, cette sagesse de Jésus, elle est pour tous, pour chacun. Pour les prostituées, pour les meurtriers, pour les ratés, pour ceux qui avaient été insensés. Et il veut offrir un chemin de sagesse pour y revenir. Alors ce livre des rois va nous parle parce que oui, on est quelque part aussi en exil d'une certaine manière. On attend la venue du roi des rois et de son royaume. On est dans ce, qu'est-ce que je disais en premier point, dans ce monde où on ne sait pas trop où se être guidé. On a besoin de la sagesse de Jésus-Christ pour faire les bons choix dans notre vie, pour prendre des bonnes décisions dans ce monde qui est compliqué, qui est abîmé par le péché, mais néanmoins où on voit la grâce et de belles choses dans notre monde. Mais voici la bonne nouvelle. Vous vous rappelez peut-être de ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, qui parle de cette sagesse. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Là, on voit les échos avec Salomon. Voilà pourquoi on peut connaître cette paix, si on connaît ce roi sage. Si ce roi gouverne et bon, le peuple est tranquille. On peut lui faire confiance. On peut faire confiance à notre roi. Il est sage, plus sage que Salomon. La paix qu'il procure, elle est plus durable. Elle est permanente. Son royaume est éternel. Et c'est cela qui est merveilleux. Il a été fait pour nous sagesse. Et il nous donne sa sagesse. Et la sagesse dont la parole de Dieu nous parle, la sagesse pour réussir sa vie, c'est la sagesse qui réussit son éternité. Alors si vous ne savez pas où vous serez vous passerez votre éternité, vous ne savez pas où vous êtes, la parole de Dieu vous dit que vous êtes un insensé, l'inverse de la sagesse. On a besoin de connaître Jésus-Christ. J'aime aussi ce passage de Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Elle est là, à la croix. La parole de Dieu nous encourage à chercher la sagesse de Dieu avant tout et à vivre avec confiance, à chercher sa sagesse dans sa présence. Faisons-lui confiance. Oui, on ne peut pas tout comprendre, on ne va pas pouvoir tout discerner, mais on est appelé à faire confiance comme l'a fait Salomon au début de son règne. Et Salomon l'a fait bien imparfaitement. Et c'est ce qui montre encore toute la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ. Un roi sage pour un peuple en paix.